franceinter.fr.
Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
On parle d'abord de ces indignés espagnols qui ont percé aux élections municipales et régionales, qui vont à coup sûr gouverner Barcelone. Vous les connaissez, vous avez prodigué quelques conseils à Podemos. C'est un succès d'abord qui vous réjouit?
Oui, moi je pense qu'on a parfois besoin de renouvellement dans les partis. Ça s'est vu en Grèce de façon extrême avec le parti socialiste grec qui a totalement disparu. En Espagne, on n'en est pas là, mais c'est vrai que les socialistes espagnols vont avoir besoin de Podemos. Et qui va arriver en tête? Bon, on a vu à Madrid, à Barcelone, que ça peut être Podemos. Je pense qu'il faut bien voir qu'il s'agit d'un mouvement qui est, dans le fond, très pro-européen, qui est très internationaliste. Et je pense qu'il faut beaucoup mieux s'appuyer sur des mouvements de ce type pour essayer de transformer l'Europe et la politique, les politiques d'austérité en Europe, plutôt que de les rejeter, qui est malheureusement un peu ce qu'on a fait avec la Grèce ces 5 derniers mois. On a perdu beaucoup de temps et je pense qu'en particulier l'absence de la France dans ces discussions et l'absence de position française claire pour surtout ne pas laisser la zone euro partir en morceaux est extrêmement inquiétante.
Alors on va d'abord continuer de s'intéresser à l'Espagne et aux gestions municipales qui vont être sûrement observé à Barcelone avec des politiques, c'est comme ça que les campagnes ont été faites, des politiques au service des victimes de la crise, hein, arrêt des expulsions, occupation, réquisition des logements vides, revenu minimal, etc. Ça vous semble des politiques intéressantes, en tout cas au niveau local?
Compte tenu des dégâts faits par l'austérité en Espagne, du niveau de chômage, en particulier de chômage des jeunes extrêmement élevé, oui, ce sont des politiques il n'est pas très étonnant qu'elles soient demandées par les populations. Je trouve ça aussi intéressant que ça peut détourner à Barcelone les électeurs de la tentation nationaliste, autonomiste, qui n'est pas la seule réponse possible à la crise. Et donc, je pense que ce vote, il faut le voir comme un vote d'espoir pour une autre type de politique. La première inégalité aujourd'hui en Europe et en particulier en Europe du Sud, c'est vraiment le chômage des jeunes. Quand vous avez un quart, un tiers, parfois davantage des jeunes générations qui commencent leur vie sans aucune expérience professionnelle, c'est quelque chose d'absolument dramatique. Et nous avons notre part de responsabilité, l'Allemagne a sa part de responsabilité, mais les gouvernements en Espagne qui ont mené le pays au niveau municipal comme au niveau national ces dernières années aurait pu également mener des politiques qui soient plus justes, y compris au niveau local, et c'est peut-être ce qu'on va avoir maintenant.
Et au niveau national, donc, puisqu'il y aura des élections générales à l'automne prochain, en Espagne, il y a une ou des politiques alternatives qui sont crédibles à vos yeux, Thomas Piketty, pour l'Espagne?
Alors, il y en a pour l'Espagne, et surtout, il y en a pour la zone euro dans son ensemble. Je crois qu'il faut... Il faut bien voir que quand on regarde un petit peu dans l'histoire des dettes publiques dans le passé, qui est un des sujets qui m'intéresse dans mon activité de chercheur, on a des niveaux de dettes publiques parfois qui sont plus élevés encore que ce qu'on a aujourd'hui. On a des pays qui ont connu 200% du PIB en dette publique, comme le Royaume-Uni au 19e siècle, l'Allemagne, la France au 20e siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est toujours sorti. Il n'y a pas de solution simple, mais il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire, ce que nous enseigne l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs façons de réduire des dettes publiques et vouloir s'enfermer dans une solution consistant à avoir une inflation quasi nulle et accumuler des excédents budgétaires primaires, c'est-à-dire de faire payer plus d'impôts que ce qu'on dépense en dépenses publiques pendant des décennies, c'est une solution qui peut marcher, nous enseigne l'histoire, mais qui dure extrêmement longtemps, extraordinairement longtemps. Et ce qui est très ironique dans cette histoire, c'est que l'Allemagne et la France, d'ailleurs, fort heureusement, ne se sont pas appliquées cette solution absurde à elles-mêmes après la Seconde Guerre mondiale, où on avait plus de 200% du PIB en dette publique, encore plus que la Grèce aujourd'hui. Et qu'a-t-on fait? On a utilisé de l'inflation, on a utilisé des mesures exceptionnelles, on a utilisé aussi des restructurations de dette, des remises de dette. Toute la dette extérieure de l'Allemagne a été annulée en 1953. Et c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on explique à l'Espagne, à la Grèce, que la seule solution, c'est de repayer tout jusqu'au dernier euro, alors qu'on sait que ça ne va, pas marcher. Donc je crois qu'il est temps de comprendre que oui, il y a des alternatives dans les politiques nationales et surtout dans la façon dont on a une stratégie au niveau de l'ensemble de la zone euro pour réduire cette dette.
Ça vaut pour l'Espagne, pour la Grèce, mais pas forcément pour d'autres pays. Pour la France aussi, vous pensez que vous pouvez comparer la situation d'endettement de la France à celle de l'Espagne et de la Grèce? Non.
Bah, c'est un peu moins élevé, mais en France, on s'approche de 100% du PIB. On est quand même sur des niveaux de dette avec une inflation quasi nulle, une croissance très faible. Ce que nous enseigne l'histoire, c'est qu'il faut des décennies pour revenir de ça. Donc, je pense qu'en fait, il faudrait une solution globale. Il y avait une proposition qui avait été faite d'ailleurs en Allemagne, en fait, fin 2011, par le Conseil des économistes qui conseille la chancellerie allemande. Ce sont tous sauf des extrêmes gauchistes. Et ils avaient dit, on va mettre toutes les dettes européennes dépassant 60% du PIB dans un fonds commun. Qu'ils appelaient fonds de rédemption. Bon, c'est peut-être un mot un peu culpabilisateur, mais en tout cas, l'idée de le mettre dans un fonds commun et ensuite de le gérer ensemble, en gardant des comptes séparés pour voir combien chacun a mis, mais en ayant des restructurations de l'ensemble de cette dette, en rémettant de la dette ensemble, donc un taux d'intérêt commun pour se mettre à l'abri des spéculations des marchés financiers, je pense que ce type de solution devra être mis sur la table avec plus de démocratie au niveau européen. On voit les négociations sur la Grèce depuis 5 mois. Personne ne sait ce qui se dit dans ces réunions de l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'opacité des discussions, l'absence de discussion publique. On voit que c'est cette absence de démocratie dans la gouvernance européenne qui aussi.
Paris Varoufakis a fait des enregistrements. Il a enregistré quelques conversations pour servir de trace.
Il l'a confirmé.
Oui, il l'a confirmé absolument. Ça a été confirmé hier.
Mais tout ça, ça devrait être des discussions publiques. Ça devrait être des discussions publiques où au moins on sait les arguments qui sont changés, où on a des votes clairs, où on a là cette absence de transparence est extrêmement nuisible pour arriver à une solution.
On va reparler de la Grèce un peu plus tard, Thomas Piketty. La Grèce, dont plusieurs responsables ont évoqué ces dernières heures la possibilité d'un défaut de paiement et de ne pas payer ses créanciers, d'arrêter de payer ses créanciers. Je voudrais qu'on dise quelques mots de la France. Vous voyez qu'on reparle aujourd'hui et assez fortement du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. C'était l'un des aspects de la réforme fiscale qui avait été promise par François Hollande. Est-ce qu'il est encore temps, à vos yeux, dans ce quinquennat, de faire la révolution fiscale que vous souhaitez, Thomas Piketty?
Oui, il est toujours temps, bien sûr, mais c'est quand même une gigantesque blague tout ça. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est là depuis 3 ans, et au bout de 3 ans, il dit tiens, si on faisait le prélèvement à la source pile l'année des élections pour 2017, oui, pourquoi pas. Bon, moi, je pense que pour commencer, ce qu'il faudrait essayer de faire en sorte, c'est de réussir la réforme de la prime d'activité. Juste un mot pour les auditeurs qui ne savent pas de son.
Vous pensez que c'est la réforme ou l'une des réformes les plus ratées du quinquennat?
C'est une des plus ratées du quinquennat, et l'améliorer serait une façon aussi d'avancer vers une réforme fiscale moderne. De quoi s'agit-il très concrètement? Vous êtes salarié au SMIC à plein temps. Aujourd'hui, vous avez un salaire brut chaque mois qui est d'un peu plus de 1400 euros brut, 1460 euros. Sauf qu'on vous déduit à la source plus de 300 euros de cotisation et CSG. C'est le taux global, c'est 22% qui est déduit, dont 8% pour la CSG. Résultat, votre salaire net, c'est 1140 euros. Donc, vous passez de 1400 à 1100, 300 euros de moins. Que fait la prime d'activité? Eh bien, on vous donne 130 euros à condition que vous la demandiez. Et on sait qu'en pratique, il y a seulement un tiers des gens qui ont la demandé, et j'ai entendu le gouvernement qui disait « oui, mais on va faire de grands efforts, on va peut-être monter à la moitié des gens qui vont la demander ». Très bien, sauf qu'il y aurait quand même une façon plus simple, qui est qu'au lieu de prélever 300 euros à la source pour ensuite reverser 130 euros si la personne la demande, c'est de prélever 130 euros de moins à la source.
Oui, donc, mais c'est ce qui avait été prévu au début, et puis le Conseil constitutionnel, on a jugé que c'était pas... Le principe de la CSG progressive a été retoqué.
Mais ça s'applique pour une petite population qui sont les retraités. Et pourquoi le Conseil constitutionnel ne l'a pas retoqué pour les retraités. Pour une raison très simple, c'est que le taux réduit de CSG pour les retraités, il dépend de l'ensemble de votre revenu fiscal. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez une petite retraite, on commence par appliquer un bateau de CSG. Et si jamais on se rend compte l'année suivante dans votre déclaration correctrice qu'en fait vous êtes Liliane Bettencourt et que vous touchez des millions d'euros de dividendes, alors on vous remettra au taux élevé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'arrive pas souvent. Et que dans la plupart des cas, le taux prélevé à la source sera le bon. La seule chose que demande le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y ait ce mécanisme de prise en compte du revenu familial au cas où la personne aurait d'autres revenus qui la mettraient dans le taux élevé. Donc on peut parfaitement le faire pour les salariés. La seule raison, non, c'est très important, parce que beaucoup de gens disent c'est impossible. C'est totalement faux. La seule raison pour laquelle ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, c'est que ça se basait uniquement sur le salaire individuel et qu'il n'y avait pas ce mécanisme qui existe pour les retraités de prise en compte du revenu familial. Si on le fait pour les salariés, si les députés le votent, ça s'appliquera parfaitement et ce ne sera pas retoqué, parce que le Conseil constitutionnel n'a aucune raison de refuser la progressivité aux salariés qu'il a accepté depuis plus de 10 ans pour les retraités. Donc c'est parfaitement quelque chose qui peut être fait. Ça n'a pas de sens de réduire le salaire net de millions de personnes hein, 300 euros par mois de cotisation et de CSG déduites au niveau du SMIC, on passe de 1400 à 1100 pour ensuite renvoyer un chèque de 130 euros par mois au cas où vous le demanderiez. Donc là, une réforme très simple. Ça ne coûte pas un centime, c'est simplement d'avoir ce prélèvement à la source progressif. Ça existe déjà, le prélèvement à la source avec la CSG et les cotisations sociales. Simplement, on prélève vraiment au niveau du SMIC. C'est quelque chose qui est parfaitement faisable, qui se fait chez tous nos voisins depuis toujours. Donc, on explique maintenant qu'il faut des années de transition. C'est pas le cas. Là, on le fait déjà pour les retraités, on peut le faire pour les salariés.
Donc, commençons déjà par là. Dites-vous ce matin, Thomas Piketty. À France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes avec les auditeurs et des questions déjà nombreuses. Il est 8h32 sur Inter.